britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
On a attrapé des femmes, des pauvres femmes, des vieilles femmes. Ils les ont battus. Personne ne dénonçait. On se sentait malheureux d'un côté. Et puis tous ensemble, encore. Toute la Grèce était encore qui souffrait. Vous savez, c'est un grand bonheur qu'on se sente comme ça. Malgré l'esclavage, sentir qu'on est fort. On est fort de toute une nation, n'est-ce pas ?
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions qui sont différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi les sinusoïdes débridés que connaissent au gré des immédiatetés qui se bousculent nos opinions publiques, l'une spécialement suscite la surprise et appelle l'analyse, celle qu'a connue ces derniers temps l'image de la chancelière allemande. Sa réaction généreuse à la crise actuelle des migrants lui a donné soudain et pour un temps au moins une aura sans pareille, en tout cas à gauche et au centre. Mais il suffit de remonter avant l'été pour retrouver la même Angela Merkel, fustigée pour la dureté dont on la taxait, elle et son ministre des Finances Schäuble, à l'égard de la Grèce en désarroi. C'est sur cet épisode que ce matin, et pour l'instant, nous allons nous arrêter. Entre Berlin et Athènes, les tensions ont été extrêmes, reflétées dans les médias, et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elles renaissent parmi les immenses incertitudes helléniques. Donc je vous propose de mettre en lumière ce matin la complexité historique des relations entre ces deux peuples, avec tumultes et passions. En remontant d'abord au XIXe siècle, puis en concentrant l'attention sur le temps du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, et sur la façon dont les comptes n'ont pas été soldés par la suite. Johann Chapoutot, professeur à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, brille parmi la nouvelle génération des historiens germanistes. Il nous a donné récemment, entre autres, un livre important sur les relations entre le nazisme et l'Antiquité. Par conséquent, il est devant moi.
Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Es lockt der Zauber von Piräus, drum steh ich Abend für Abend hier am Kai. Warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir dann einen, den ich so liebe wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht. Ich bin ein Mädchen von Piräus. Und wenn eines Tages mein Herz sich mal verliert, dann muss es einer sein von Hafen, nur so ein Burschen wünsch ich fürs Leben mir. Und später stehen meine Kinder dann Abend für Abend, genau wie ich am Kai. Warten auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir dann einen, den ich so liebe wie keinen und er mich glücklicher macht. Ein Schiff wird kommen und meine Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht meiner Nacht.
Johann Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous faire entendre, vous l'avez sûrement reconnu, en allemand, Les Enfants du Pirée, cette chanson de Manos Hadjidakis avait été composée pour le film de Jules Dassin en 1960, considérable succès, Jamais le dimanche, interprété par Mélina Mercouri, qui avait donc accepté en l'occurrence de le rechanter en allemand. Comme quoi beaucoup de choses se passent quand même entre ces deux peuples.
C'est une chanson intéressante parce qu'elle elle montre que l'Allemagne, enfin les Allemands ont découvert dans les années 50 et 60 la Méditerranée par un phénomène de tourisme de masse qui leur a permis d'entrer en contact avec ces pays, notamment avec la Grèce. Et là, dans cette chanson, on a un folklore touristique assez kitsch et assez commun sur le Pirée, sur la Grèce. Bon, mais on a aussi ce mot très important qui est celui de Sehnsucht.
C'est-à-dire
Sehnsucht, c'est un mot assez intraduisible en fait en français, qui veut dire une forme de nostalgie, de tension vers, qui est promise à la déception en fait, par essence.
Il n'y a pas sous-jacente la mémoire du moment où les Allemands pendant la guerre avaient bombardé le port du Pirée.
Oui, un épisode tragique. D'ailleurs, Goebbels en parle dans son journal en disant que les opérations militaires en cours, donc au printemps 1941, sont un traumatisme pour Hitler lui-même. Ils en ont parlé ensemble, puisque, dit-il, Athènes, c'est la Mecque pour le Führer. Je cite Goebbels, les bombardements du Pirée n'ont pas été une décision facile à prendre.
Il me semble que cette ambivalence des relations entre les Allemands et les Grecs va sous-tendre toute notre conversation de ce matin, Johann Chapoutot. Peut-être d'ailleurs, peut-on avoir l'impression qu'on la retrouve dans le comportement de la chancelière Angela Merkel elle-même, ces temps-ci, ce contraste apparent en tout cas entre son comportement d'avant l'été et celui d'aujourd'hui.
Le mot ambivalence que vous employez est juste parce que les observateurs étrangers n'y comprennent plus rien. On a d'un côté une attitude très dure vis-à-vis de la Grèce, de la part de Madame Merkel et de son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, et de l'autre côté, ensuite, cette image incroyable de ce que les réfugiés appellent désormais Mama Merkel. Donc, c'est-à-dire cette femme qui est appelée de manière avec dérision, une dérision affectueuse par les Allemands, Mutti, c'est-à-dire maman. Mutti est devenue Mama Merkel pour les réfugiés.
Vous pouvez nous trouver une unité donc entre les deux comportements ?
L'unité, c'est la règle et le respect de la règle. Angela Merkel, pas revenir sur sa culture protestante, mais cela joue tout de même dans son cas. La règle est simple et elle doit être appliquée à chaque fois. Un pays doit payer ses dettes, c'est sa ligne à l'égard de la Grèce, même si elle a pu l'aménager. L'effort de solidarité doit être réparti entre les différents pays européens selon des quotas, ça doit être une règle de solidarité commune. Et par ailleurs, autre règle fondamentale, l'accueil imprescriptible des réfugiés qui sont en situation d'urgence. Madame Merkel, de ce point de vue-là, il y a quelques jours, a tenu une conférence de presse historique avec Werner Faymann, le chancelier autrichien, où elle a dit, écoutez, s'il faut maintenant s'excuser parce que l'on aide des gens qui sont en situation d'urgence, ce n'est plus mon pays. C'est une parole très ferme de la part de Madame Merkel, qui est connue pour avoir un discours très tempéré, voire insipide, lui reproche-t-on souvent. Mais je trouve que cette déclaration-là la rapproche très clairement d'un De Gaulle en 1940 ou d'un François Mitterrand en 1981, lorsque François Mitterrand prend le risque de perdre l'élection présidentielle sur le principe de l'abolition de la peine de mort. Là, Madame Merkel prend des risques énormes en termes de popularité, en termes politiques, en disant voilà, il y a un principe sur lequel on ne transige pas. Quelqu'un qui a besoin d'aide doit être aidé.
Ces comparaisons me paraissent constituer un hommage considérable envers la chancelière. On est loin, en tout cas vu de Grèce, de ces journaux qu'il a montrés avant l'été avec un casque à pointe. Il y en a même eu en France, qu'on a pu trouver plus que malvenu. Mais on l'a montré dans la presse d'Athènes avec une petite moustache, etc. On en est loin.
On en est loin. Il ne s'agit pas cependant de céder à une forme d'angélisme béat.
Angélisme à cause d'Angela ?
Sans doute. La politique allemande en matière budgétaire et économique est très contestée et reste contestable. Cela dit, ce que fait le gouvernement allemand, j'entends la chancelière et le vice-chancelier, puisqu'il y a une grande coalition entre SPD et droite, et tout le monde est d'accord au plus haut niveau de l'État sur la politique d'accueil des réfugiés. On a donné, il y a quelques années, le prix Nobel de la paix à Barack Obama, on se demande encore pourquoi. On parle désormais de le donner à Angela Merkel. Je pense que ce prix Nobel de la paix, très clairement, elle le mérite.
Et je voudrais maintenant que nous revenions en arrière. Ce qui sera d'ailleurs une autre manière de montrer à quel point les relations entre Grèce et Allemagne ont été complexes et parfois contradictoires. Il y a eu un grand moment de philhellénisme en Allemagne, c'est l'époque du 19e siècle, enfin le tournant du 18e, puis le 19e, l'époque du romantisme et l'époque bientôt des premières fouilles allemandes.
Cela remonte même à avant, en l'occurrence à la Renaissance, à la Réforme, lorsque un Luther se révolte contre Rome et contre le catholicisme latin, contre l'Ouest et contre le Sud, et lorsque la Réforme allemande choisit d'étudier la langue grecque. Il faut voir que le grand ami de Luther et son successeur, Philippe Melanchthon, s'appelle Schwarzerd, qui est grécisé en Melanchthon, en terre noire donc, professeur donc de littérature grecque et de théologie à l'université de Wittenberg. Melanchthon et Luther ont beaucoup réfléchi sur la langue grecque pour créer la langue allemande au fond. On dit souvent que la langue allemande a été créée grâce à la connaissance qu'avait Luther du latin, qu'il parlait, il lisait couramment comme docteur en théologie, mais il faut voir que les structures que Luther confère dans sa traduction de la Bible à la langue allemande sont des structures directement inspirées du grec, et ça c'est un immense philologue et philosophe qui l'a montré, qui est Heinz Wissmann.
Vous parlez d'un contemporain, mais à mi-chemin entre la Renaissance et nous, on peut aussi citer le grand philologue Humboldt, Guillaume Humboldt, qui était à la fois diplomate et savant, et qui écrit en janvier 1796, à l'occasion d'une discussion sur la poétique d'Aristote, qui écrit à son ami Friedrich Wolff, « Je voudrais appeler la langue grecque la langue la plus accomplie d'un point de vue sensible, mais la langue allemande est, selon moi, celle qui lui est le plus semblable. » Donc rapprochement intéressant du point de vue qui nous occupe. « Peut-être même pourrait-elle être désignée, non sans raison, comme la langue la plus humaine. Et si je ne me trompe pas, cette comparaison s'applique aussi aux deux nations elles-mêmes. » Je ne sais pas comment réagit Rivarol, qui, à peu près à la même époque, expliquait dans son discours sur l'universalité des langues, enfin un peu avant, en 1784, « Ce qui n'est pas clair n'est pas français. » C'est un inventaire des fiertés langagières des nations juxtaposées.
Vous avez raison de citer Rivarol, parce que lorsque l'on voit ce dialogue entre l'Allemagne contemporaine, depuis moderne et contemporaine depuis la Renaissance, et la Grèce antique, en tant que Français, on peut être vexé, puisque cela va jusqu'à Heidegger, lorsque Heidegger, dans les années 30, écrit que on ne peut penser, on ne peut philosopher qu'en allemand et en grec, et certainement pas en français ni en latin. Donc cela a quelque chose de vexant pour nous, mais ce qui s'installe à la Renaissance et qui est confirmé, vous l'avez bien montré avec Humboldt, c'est l'idée non seulement d'une homologie de structure sémantique, syntaxique entre les deux langues, et en amont de cette homologie-là, cette homologie ne serait que l'expression d'une parenté au fond, presque physique, des deux peuples. Si l'on parle de la même manière, si l'on pense de la même manière, c'est tout simplement parce que on est constitué de la même manière. Les Français ont préempté le modèle latin et la langue latine depuis longtemps. Eh bien, les Allemands, dans le procès de leur construction identitaire et culturelle nationale depuis la Renaissance, eux revendiquent la Grèce comme cousin et matrice.
Est-ce une réalité? Est-ce une fiction? Un mythe? Au fond, ce n'est pas tellement important. Une idée fausse devient un fait de vrai. Ce que montre bien le livre d'Anthony Endurant qui s'appelle « Le mythe grec-allemand », qui est l'histoire d'une affinité élective. Et tout cela nourrit l'œuvre de beaucoup d'écrivains du tournant du 18e et du 19e siècle, en particulier la poésie, en particulier les romantiques. Je vais vous faire écouter un poème de Friedrich Hölderlin. De poésie sur parole d'André Velter, le 8 février 1990 sur France Culture. Il s'agit du poème qui s'appelle Der Einzige, c'est-à-dire l'unique. L'unique, écoutez-le.
Qu'est-ce donc aux antiques rives heureuses qui m'enchaînent ainsi pour que je leur porte plus grand amour encore qu'à ma patrie. Oui, comme en un céleste esclavage, vendu, je vis là-bas, au lieu où s'en vint Apollon sous la figure d'un roi. Et où Zeus, vers de jeunes êtres pleins d'innocence, descendit, engendrant maint fils, paternité sacrée et mainte fille, lui le Très-Haut parmi les hommes. Et nombre aussi de hautes pensées ont jailli de la tête du Père, et de lui sont descendues de grandes âmes chez les hommes. Je sais sur Élis mainte chose, et sur Olympie, je fus là-haut sur le Parnasse, et sur les monts de l'Isthme, et là-bas, au-delà des flots, vers Smyrne, je m'en suis allé, et vers Éphèse encore. J'ai nourri mes regards de l'innombrable beauté, j'ai dédié mon chant à cette image de Dieu qui est vivante parmi les hommes, et cependant, ô dieux antiques, et vous tous, ô de ces dieux les fils très braves, il en est encore un que je cherche, celui d'entre vous tous que j'aime. Car une ferveur trop vive à toi me lie, ô Christ. Et cependant, tu es le frère d'Héraclès.
Le Christ, Héraclès, Johann Chapoutot.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce poème. D'abord, l'enchaînement. Je suis enchaîné à ces rives antiques, dit Hölderlin. Ce qui est intéressant, en 1936, une professeure de littérature allemande d'Oxford, Elisabeth Butler, publie un livre qui s'appelle « La tyrannie de la Grèce sur l'Allemagne ».
3 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
C'est 3 ans, effectivement, après. Et le titre ne manque pas de sel, d'ailleurs, vu le contexte actuel aujourd'hui. « La tyrannie de la Grèce sur l'Allemagne », on aurait plutôt tendance à dire que c'est le contraire. Mais bon, Elisabeth Butler se fait l'historienne, en littéraire, de cette fascination allemande pour la Grèce dans le long terme, notamment pour le 19e siècle. « La tyrannie de la Grèce », c'est effectivement des Allemands qui sont enchaînés. Enchaînés à quoi? Alors, Hölderlin le dit, à des antiques rives, et il dit « je vis là-bas », ce qui est quand même singulier, puisque aucun de ces poètes et penseurs-là n'a jamais mis les pieds en Grèce. Ils sont rivés à des antiques rives fantasmées, totalement imaginaires, à tel point que lorsque, dans les années 1960, lorsque Elfriede Heidegger, l'épouse de Martin Heidegger, propose à son mari d'aller faire un voyage en Grèce, se croyant lui faire plaisir, Heidegger refuse, en disant « mais je ne veux surtout pas y aller, je ne veux surtout pas confronter mon mythe avec la réalité ». Ils finissent par y aller, et Heidegger revient avec un récit intéressant, publié en français d'ailleurs, qui s'appelle « Aufenthalt, séjour », récit de son voyage en Grèce.
On est toujours plus libre de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça me fait penser à Tristan Bernard quand il rendait compte des livres et qu'il disait qu'il ne les lisait jamais de peur d'être influencé.
C'est une bonne méthode critique et de recension, en effet. On connaît beaucoup ça dans le métier.
Quoi qu'il en soit, ces écrivains, ces poètes font assaut, en effet, de grécité. De deux exemples, Schiller écrit à Goethe pour son anniversaire en 1794 « Vous êtes né allemand et votre esprit grec s'est trouvé jeté dans notre monde septentrional. Il vous a donc bien fallu soit vous résigner à devenir vous-même un artiste du Nord, soit travailler par l'imagination. Et vous créez de toutes pièces, c'est bien cela, vous créez une Grèce par un acte de la raison et l'enfanter, en quelque sorte, du dedans au dehors. » Et Schiller, qui décerne à Goethe la prime de la grécité, entre guillemets, n'a pas été du tout en reste, puisqu'il a reçu de Humboldt, dont nous parlons, cet hommage qui est devenu désormais, semble-t-il, assez convenu. « Ce par quoi vous vous apparentez tantôt grec est la pure génialité, l'esprit poétique authentique. » On voit que le thème de la parenté court comme un fil rouge à travers toute l'œuvre de cette génération.
Il faut voir où vivent Schiller et Goethe. Ils vivent à Weimar, qui est un petit bijou de culture et de beauté architecturale. Et Weimar est une ville qui est parsemée de temples grecs. Vous en avez un au centre-ville, vous en avez un autre dans le Goethe-Park, dans le parc de Goethe, justement, qui porte désormais ce nom. Des petites imitations du Parthénon qui ont été construites au XVIIIe siècle par ce prince mécène de Weimar, Eisenach Gotha, qui a fait venir Schiller, qui a fait venir Goethe pour constituer une forme d'Athènes allemande au cœur de la Thuringe, dont nous voyons encore aujourd'hui la beauté.
Cette influence architecturale se lie en effet en Allemagne encore aujourd'hui. On peut citer par exemple la porte de Brandebourg à Berlin, ou bien cette fameuse Valhalla qui est construite en Bavière, un temple dorique.
Ça, c'est très important. C'est une réplique du Parthénon, très clairement. Et c'est un projet de Louis Ier de Bavière de constituer une forme de panthéon mot grec là encore, de panthéon de la nation allemande. Les grands esprits de la nation allemande y sont représentés par des bustes, et pour lieu, pour chasse, si vous voulez, de cette collection de bustes, eh bien on a construit un Parthénon. C'est très impressionnant, c'est dans une vallée, pas très loin donc entre Munich et Regensburg, et l'on voit ce temple grec surgir, très impressionnant, à l'échelle, hein, puisque c'est une réplique exacte du Parthénon.
La Bavière, c'est très important dans l'histoire que nous évoquons ce matin, Johann Chapoutot, des relations entre Grèce et Allemagne, puisque le premier souverain de la Grèce, après que ce pays ait acquis son indépendance par rapport à l'Empire turc, ce premier souverain est bavarois.
C'est un Wittelsbach, effectivement. Lorsque les puissances européennes se demandent qui mettre sur le trône de la Grèce récemment libérée, grâce d'ailleurs à une mobilisation de volontaires, ce sont les brigades internationales des années 1820.
Avec Byron comme personnage tutélaire.
Absolument, avec le mythe de Missolonghi, avec cette grande épopée, ces volontaires philhellènes qui ont permis d'aider le peuple grec. Les puissances européennes s'accordent, non pas sur une dynastie dominante ou trop encombrante.
C'est-à-dire les Wittelsbach. Qu'ils vont choisir.
Précisément les Wittelsbach, donc la famille régnante de Bavière, sachant qu'à cette époque, Louis Ier transforme Munich, sa capitale, en ce qui va devenir Athènes sur l'Isar. C'est le surnom de Munich, désormais.
Alors on choisit Othon Ier, qui arrive en Grèce, voilà vraiment un truchement entre les deux peuples, et l'histoire de son adaptation et des limites de son adaptation n'est pas sans intérêt. Il s'habille avec le costume national grec, mais il n'accepte pas d'être orthodoxe.
Voilà, la question de la religion est importante puisqu'il reste catholique. Il faut savoir qu'en Bavière, on est catholique de manière très rigoureuse et sans compromission.
Encore aujourd'hui,
ce qui d'ailleurs signe la spécificité de la Bavière en Allemagne, encore aujourd'hui. Hein.
Peut-être du parti conservateur, CSU, par rapport à la CDU. Oui,
absolument. Et par ailleurs, Othon Ier a une conception absolutiste du pouvoir, hein, qui est celle des Wittelsbach depuis la contre-réforme. Il tente d'imposer cela à des Grecs qui viennent de se libérer du joug ottoman, qui n'entendent pas passer d'une une tyrannie à une autre, et ça aboutit 30 ans plus tard à une révolution et à la déposition d'Othon.
Qui est remplacé à ce moment-là par un prince venu du Danemark.
D'abord, on a pensé à plusieurs familles princières allemandes, et finalement, c'est un membre de la famille royale danoise.
Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui les traces de ce qu'on appelait à l'époque la bavarocratie ?
Il y a toujours une affinité élective en termes de symboles. Par exemple, les couleurs de la Bavière, ce sont les couleurs mariales, hein, du bleu et du blanc. Ce sont les couleurs de la Grèce, de telle sorte que lorsque les touristes allemands arrivent en Grèce, ils sont un peu chez eux, de fait, par le long terme culturel de la relation germano-grecque et également par cette histoire des Wittelsbach en Grèce.
Le contraire n'est peut-être pas toujours vrai. Quand les Grecs voient arriver les Allemands.
Les touristes allemands sont une source considérable de revenus et les Grecs en sont conscients. Par ailleurs, les émigrés grecs qui s'installent en Allemagne sont plutôt très bien reçus.
Cette époque nous intéresse aussi parce que c'est le premier moment où on découvre de grandes difficultés à rembourser la dette, puisqu'il y a eu une dette qui a aidé la monarchie à s'installer. Et on s'aperçoit dès ce moment-là qu'il y a en particulier un grand manque, c'est celui du cadastre.
Il y a le problème de la dette, il y a également le problème de la monnaie, puisque en 1865, on a créé l'Union latine, ce système de parité monétaire entre la Suisse, la Belgique, la France, la Grèce et l'Italie. Avec, on le voit encore aujourd'hui, quand on est un peu numismate, hein, les mêmes formats, les mêmes pièces d'or et d'argent.
Et là, il y a évidemment une concordance des temps.
Absolument, puisque c'est la première monnaie unique européenne. Hein. L'euro n'est pas né dans les années 90 ou 2000.
C'est une monnaie commune, mais pas unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes pièces dans la main.
Alors, de fait, on a les mêmes pièces en termes de format et de poids. Effectivement, les inscriptions changent d'une nation à une autre, mais ce sont exactement les mêmes pièces d'un pays à l'autre. Et ça a été pensé pour cela dans la grande vague de libéralisation et d'optimisme économique du Second Empire des années 1860, etc. Le problème, c'est que l'État grec a triché sur la valeur de la monnaie, puisque au lieu de titrer de manière exactement identique les pièces d'or notamment, eh bien ils ont titré de manière inférieure, ce qui fait que la monnaie grecque était dévaluée de fait et ne pouvait pas être échangée contre la monnaie française ou suisse ou belge par exemple.
Et le fisc est impuissant.
Et le fisc est impuissant. Alors ça, c'est quelque chose, vous parliez du cadastre aussi très justement. L'histoire de l'État en Grèce est une histoire conflictuelle et difficile, puisque l'État, pour les Grecs, très clairement, et c'est vrai, c'est un élément étranger, c'est une dictature extérieure. C'est l'État ottoman, en gros. Tout ce qui a trait à l'État pose effectivement un problème culturel. C'est Heinz Wissmann, encore une fois, qui l'a très bien montré dans la relation germano-grecque, justement. Il y a une forme de mimétisme, de spécularité et d'ambivalence, tout simplement parce que les Allemands disent, au fond, nous n'avons pas eu d'État pendant longtemps, nous l'avons créé en plusieurs étapes, 1871, 1945, 48, 49, et à nouveau 1990, donc nous l'avons fait, vous les Grecs, qui n'avez pas d'État, ou pas d'État digne de ce nom, faites cet effort-là que nous avons fait.
Il y a un autre aspect de cette histoire, le poème d'Hölderlin tout à l'heure évoquait Olympie, il y a les fouilles allemande, en Grèce, les Allemands y consacrent beaucoup d'argent, notamment après l'unité de 1871. Et les archéologues sont extrêmement actifs, plus que d'ailleurs les Français, qui eux fouillent dans la région de Delphes en particulier. Je suis tombé l'autre jour sur un article de Georges Clémenceau dans la Dépêche de Toulouse, vers 1900, où il déplore cette insuffisance de l'action française, même si l'école française d'Athènes est dynamique, elle a été fondée au milieu du 19e siècle, il regrette que les Français consacrent moins d'argent que les Allemands, qui sont extrêmement efficaces du côté d'Olympie. Et puis il y a Schliemann aussi, qui est l'homme de Troie.
Quand Hölderlin disait « je vis là-bas, sur ces antiques rives », ce n'était pas vrai pour les poètes et les penseurs, comme on dit en allemand, mais c'est vrai pour les archéologues. Il y a les aventuriers à la Schliemann qui vont, fascinés par le mythe de Troie, faire des fouilles.
Schliemann, oui, c'est un personnage considérable dans cette histoire.
Oui. Et
très romanesque.
Très romanesque, très contesté scientifiquement.
Il y avait un livre qui s'appelait « Des dieux, des tombeaux, des savants » qui était paru il y a quelques décennies, de Céram, qui était un best-seller mondial.
Ce que Schliemann a fait de manière scientifiquement très contestable, l'État allemand, après 1871, a tenté de le faire de manière très encadrée, budgétée, avec la création de l'Institut archéologique ou historique allemand d'Athènes, qui est une imitation, une copie, au fond, de ce que les Français avaient déjà fait quelques décennies auparavant, avec, vous l'évoquiez à l'instant, l'École française d'Athènes, l'EFA, qui existe toujours et qui est une institution remarquable et très prestigieuse. Et les Allemands ont fondé cette institution, de l'Institut archéologique allemand. Ils ont également diligenté des fouilles, des campagnes de fouilles très impressionnantes, notamment à Olympie. Fouilles qui s'interrompent aux alentours de la Première Guerre mondiale et puis qui reprennent, par contre, un peu plus tard dans les années 30.
Je voudrais que nous évoquions brièvement la Première Guerre mondiale, qui a été évidemment marquée par des affrontements entre Grecs et Allemands. Et puis ensuite, nous en viendrons à Hitler et à son temps.
La Première Guerre mondiale est un épisode d'affrontement et qui est surdéterminé d'ailleurs par la relation à la Turquie. C'est-à-dire que les Allemands sont des alliés de longue date, hein, déjà de l'Empire ottoman, pour plein de raisons géostratégiques, diplomatiques et économiques. Et évidemment, en raison de leur histoire, les Grecs ne sont pas tout à fait des amis de la Sublime Porte. La Première Guerre mondiale, c'est effectivement un affrontement germano-grec par le truchement contre la Turquie.
Alors il y a des débats à l'intérieur de la Grèce. Faut-il se rejoindre les alliés ou au contraire l'entente ? Passons là-dessus et arrivons-en, si vous voulez bien, à ce moment fondamental dont on voit encore émerger les conséquences au quotidien de nos récits, de ce qui se passe dans les sensibilités grecques et allemandes. Voyons ce qui advient avec les nazismes, puisque là, on est vraiment en plein dans la mythologie. Vous citez dans votre livre ce mot de Valéry qui me paraît très très adapté. « Franchi 3 ou 4 000 ans en deçà de notre naissance, on est en pleine liberté. » C'est pourquoi il m'est arrivé d'écrire certains jours, au commencement, était la fable. Pour ouvrir ce chapitre de notre conversation, je voudrais vous faire entendre Pierre de Coubertin, vous savez, l'homme qui a restitué, qui a redonné vie aux Olympiades de l'Antiquité. Et il se trouve que par une décision qui remonte en fait encore à la République de Weimar, c'est-à-dire, si je ne me trompe, en 1931, il se trouve que les Jeux Olympiques vont avoir lieu 3 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, en 1936, Pierre de Coubertin, qui est le grand initiateur de ce renouveau, de cette réapparition au XXe siècle des Jeux Olympiques, s'exprime de la sorte en 1935. Il n'avait pas, à l'égard de l'hitlérisme, vous allez voir, des sentiments très farouches.
C'est avec un intérêt de tous les instants que je suis, en cette année 4 de la 10e Olympiade de l'ère moderne, la préparation des Jeux de la 11e Olympiade. Elle s'accomplit sur un plan magnifique. avec une parfaite conception des ensembles et un souci non moins parfait du détail. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade. La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l'olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distingue les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Voilà une présence de l'Antiquité romaine et grecque qui est probablement rêvée, mais qui est en soi un sujet de réflexion. On en voit la trace d'ailleurs dans le très fameux film de Leni Riefenstahl sur ces Jeux Olympiques qui s'appelle Les Dieux du Stade. Dans le préambule, avant le générique, on voit toutes les statues possibles qui évoquent cette période.
Oui, l'archive de Pierre de Coubertin est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle dit quelque chose de l'attitude des élites européennes vis-à-vis du nazisme à l'époque. On en a parlé récemment, Concordance des temps, là encore, avec les saluts nazis effectués par la famille royale en 1934, je crois.
La famille royale
britannique, en l'occurrence. Les élites européennes conservatrices n'avaient pas grand-chose à redire au nazisme. Au fond, Hitler est quelqu'un de tout à fait fréquentable et convenable. C'est quelqu'un qui détruit les syndicats, qui détruit la gauche, qui permet à l'Allemagne de devenir un pays hautement rentable économiquement et financièrement. D'ailleurs, le régime nazi vit à crédit, hein, c'est un régime extrêmement dépensier, et il n'a aucun problème à trouver des prêteurs. Des prêteurs financiers, fiduciaires, et des prêteurs également symboliques et en termes de réputation. Là, Pierre de Coubertin agit comme un légitimateur du nazisme par ses déclarations, de la même manière que, peu ou prou, 3 ans auparavant, le Vatican avait installé diplomatiquement le Troisième Reich grâce au concordat de juillet 1933. On est exactement dans la même logique. Et Coubertin remercie et salue le peuple allemand et ses dirigeants pour l'organisation des Jeux. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez rappelé, les Jeux ont été attribués par le CIO à l'Allemagne en 1931, que à partir de 1933, la question s'est posée de maintenir ou pas les Jeux en Allemagne, et que le gouvernement allemand, qui d'abord était réticent, c'est Goebbels qui a attiré l'attention d'Hitler sur le bénéfice qu'on pouvait retirer en termes de propagande de l'organisation des Jeux à Berlin. Hitler, donc, a été convaincu par Goebbels et a obtenu l'aval du CIO en échangeant cette confirmation des Jeux de Berlin contre la reprise des fouilles allemandes à Olympie. C'est le cas dès 1934 avec des fouilles dirigées par un archéologue remarquable qui s'appelle Hans Schleif et qui, par ailleurs, à ce moment-là, non seulement rentre dans la SS, mais en 6 mois, passe du statut de docteur, de jeune docteur sans poste, au statut assez envié en Allemagne de professeur des universités.
C'est aussi le moment d'évoquer le développement du mythe qu'installe Hitler, contre un certain nombre d'ailleurs de nazis au début, mais ceux-là se sont vite inclinés, le mythe de la nordicisation de la Grèce. Autrement dit, cette insistance mise par exemple sur les yeux bleus de tel ou tel, sur les cheveux blonds, il y a une étude que vous relevez sur les cheveux blonds chez les peuples indo-germaniques de l'Antiquité.
Oui, c'est un ouvrage de 1936 qui est par un anthropologue très célèbre de l'époque, qui est professeur à l'université de Berlin, et qui recense, en faisant la synthèse des travaux de ses étudiants, tous les textes antiques qui évoque des personnages de fiction, mythologiques, historiques ou religieux, portant cheveux blonds, ayant des yeux bleus. Et la conclusion de cette synthèse est que les élites divine, aristocratique, religieuse, mythologique de la Grèce était toute blonde aux yeux bleus, ergo, les Grecs sont des Germains.
Ergo, c'est du latin, vous pourriez le dire en grec.
Alors, là,
donc, ergo.
Donc, les Grecs sont des Germains. Le récit historique nazi est que les civilisations méditerranéennes, Grèce et Rome, ont été fondées par des tribus germaniques émigrées du nord qui se sont installées dans le sud. Autrement dit, les Germains qui sont demeurés dans le nord sont restés des demeurés au sens double sens du terme, et Hitler le dit très clairement, parce que, théorie des climats, le climat n'a pas permis le développement de leurs facultés, alors que, grâce au climat de la Méditerranée, les Germains, qui sont devenus donc les Grecs et les Romains des origines, ont pu opérer une forme de photosynthèse culturelle grâce à l'air agréable et au soleil de Méditerranée.
Oui, il faut renvoyer au livre récent et tout à fait digne d'attention de Jean-Paul Demoule sur le mythe indo-européen. Voilà un mythe extraordinairement plastique dont on a pu faire de décennie en décennie un peu ce qu'on voulait, non ?
C'est un livre très important que celui de Jean-Paul Demoule, parce que c'est une somme qui n'existait pas jusqu'alors. Sachant que pour ce qui est des nazis, le mythe indo-européen, les nazis lui tordent le bras, si vous voulez. Le mythe indo-européen, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, ce sont des populations venues d'Inde, des hauts plateaux de l'Inde, qui viennent en Europe pour créer la civilisation blanche. Or, les nazis, eux, renversent, si vous voulez, les flux migratoires, déjà, et renversent cette vision de l'histoire. Ce n'est plus ex oriente lux, comme l'écrivait Hegel, c'est de l'Orient que vient la lumière, c'est de l'Inde que vient la civilisation, et le chemin de l'esprit et du monde, c'est de l'Est vers l'Ouest. Ce n'est plus ex oriente lux, c'est désormais ex septentrione lust. C'est du Nord que vient la lumière, c'est du Nord que vient la civilisation. Vous avez dans les manuels scolaires du Troisième Reich des cartes très explicites de l'Eurasie, montrant un foyer nordique, nord de l'Allemagne, sud de la Scandinavie, et puis des flèches qui vont vers l'actuelle France, donc les Celtes, les Romains, les Grecs, donc des flux migratoires qui viennent peupler ces zones-là et qui, à partir du nord, diffusent la lumière, lux, donc de la civilisation.
Cette mythologie se traduit d'ailleurs de façon très, très concrète. Il y a les fameuses statues de Arnaud Brecker, qui a été un sculpteur formidablement célébré à cette époque, y compris en France. Il y a une exposition Arnaud Brecker au Grand Palais. On voit des photographies avec bonne partie de l'intelligentsia française qui vient lui rendre hommage. Ce sont des nus néo-grecs. Il y a aussi l'architecture néo-dorique de Troost et puis tous les édifices néo-romains de Albert Speer, lui qui a été le grand architecte de Hitler.
Oui, c'est très important ce style-là, ce style néo-antique, parce qu'on le trouve un peu partout à l'époque, depuis les années 20. Il y a une sorte de revival de l'Antiquité un peu partout, et pas qu'en Allemagne. Cela dit, dans l'Allemagne nazie, cela revêt une fonction qui n'est pas que cosmétique, qui est vraiment ontologique, si vous voulez. Il s'agit de dire que l'Allemagne fait de l'architecture néo-romaine et fait de la statuaire néo-grecque, parce que les Grecs et les Romains sont des Germains. Donc il y a un lien ontologique, ce n'est pas seulement un lien purement esthétique ou une référence esthétique, c'est un lien véritablement de race. Hitler le dit dès Mein Kampf, hein. Il y a les Grecs, les Romains et les Germains, dit-il, mais on ne doit pas se laisser égarer par les différences des temps et les différences des noms. C'est une même race, dit-il, qui combat pour son existence depuis des millénaires. C'est écrit déjà dès 1924 dans Mein Kampf.
Vous avez d'ailleurs déniché un texte assez surprenant où Hitler dit « Au cas où par malheur notre entreprise millénaire ne rencontrerait un échec, cela fera de magnifiques ruines ».
Oui, et de telle sorte que dans le programme architectural nazi, confié d'abord à Troost, puis ensuite à Speer, puisque Troost meurt en 1934, le ruinisme est un programme. Et la ruine est déjà prévue, voire désirée. C'est-à-dire que Hitler demande à Speer de construire des édifices avec des matériaux et une architectonique telle que les ruines de ces édifices ressembleront à des ruines romaines. Et Speer s'exécute, il construit des essais, il les fait dynamiter, il fait ensuite des croquis en les recouvrant de lierre, et il présente ça à Hitler, qui est très content parce que de fait, les ruines de ces édifices ressemblent à des ruines romaines. Autrement dit, ce qui est important, c'est le Reich de Milan, peut-être, avant tout, mais une fois que ce Reich de Milan n'est plus possible, et Goebbels le dit très explicitement au printemps 1945, ce qui compte désormais, c'est un mythe de Milan, pour les siècles des siècles.
Ce mythe et cette tendresse pour une Grèce rêvée n'a pas empêché que l'occupation par les troupes du Reich, par les troupes nazies en Grèce, a été une des plus épouvantables qui a eu lieu. Hitler ne souhaitait pas au début faire la guerre en Grèce, mais c'est Mussolini qui s'y est engagé pour montrer que lui aussi il était un personnage capable de grands coups d'épée, de grands coups d'éclat. Et puis comme il s'est trouvé embourbé en Grèce, Hitler était obligé d'envoyer des troupes, ce qui d'ailleurs l'a affaibli sur le front de l'Est, mais ceci est une autre histoire. Une fois là, l'occupation a été épouvantable.
C'est l'historien Marc Mazauer qui l'a très bien montré dans son livre qui s'appelle, traduit en français, qui s'appelle « Dans la Grèce d'Hitler ». Il montre le caractère littéralement épouvantable de cette occupation. Et j'ai l'impression, enfin, c'est quelque chose qui m'était apparu quand je faisais mes recherches. J'avais fait des sondages sur la presse allemande en avril 1941, au moment de l'attaque contre les Balkans. Et la Grèce attaque qui, comme vous l'avez dit, n'était pas prévue puisque les Allemands y sont allés de manière subsidiaire, si vous voulez, et supplétive, parce que c'était les Italiens qui étaient censés sécuriser la zone, et Hitler voulait attaquer l'URSS beaucoup plus tôt.
Grande irritation d'Hitler, d'ailleurs.
En regardant la presse de l'époque, presse écrite, mais aussi actualité cinématographique, j'ai vu que les deux étaient liés, le mythe d'un côté et puis la réalité atroce de l'autre. C'est parce qu'il y a eu une surévaluation incroyable par l'enseignement, par la culture allemande de cette Grèce fantasmée, que, au fond, anthropologues, soldats, policiers, administrateurs venant en Grèce et s'attendant à voir des Apollons et des Aphrodites à tous les coins de rue, n'ont trouvé, je cite la presse allemande de l'époque, que des petits levantins crépus. Des petits levantins crépus. Et à la place de Parthénon, ils ont trouvé des routes non goudronnées, poussiéreuses. Bref, le mythe s'est retourné en expérience de la réalité, c'est le revers de la médaille. Je pense, j'en avais discuté avec Marc Mazauer qui était d'accord avec moi sur ce point de vue-là, la dureté extrême de l'occupation allemande est liée à un racisme profond, activé par cette déception au fond mythologique ressentie par les Allemands arrivant en Grèce. C'est manifeste dans les actualités cinématographiques et dans la presse de l'époque.
Et pour évoquer l'ambiance qui fut celle de cette Grèce occupée par les nazis, voici un extrait d'un entretien avec Jan Seferis Tsatsos, donné à Olivier Germain-Thomas dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture le 28 mars 1978. Jan Seferis, c'est la sœur de Georges Seferis, ce diplomate et grand poète grec qui a eu le prix Nobel en 1963. Écoutons-la.
Et la guerre est arrivée, 1940. C'était quelque chose d'affreux. C'est-à-dire, être un réfugié, c'est une calamité qui s'oublie après 2-3 mois, 1 an peut-être, je ne sais pas. Enfin, on s'installe, on s'arrange, etc. Mais être sous le joug d'un étranger, c'est inadmissible. Inadmissible. C'était une chose qu'aucun Grec ne pouvait supporter. Pendant 4 années, nous étions au front. Au commencement de l'esclavage, il fallait cacher les Anglais. Tout le monde cachait des Anglais. Personne, jamais, il n'a dénoncé quoi que ce soit. On a attrapé des femmes, des pauvres femmes, des vieilles femmes. Ils les ont battues. Personne n'a dénoncé. On se sentait malheureux d'un côté. Et puis tous ensemble, encore. Toute la Grèce était encore qui souffrait. Vous savez, c'est un grand bonheur qu'on se sente comme ça. Malgré l'esclavage, sentir qu'on est fort. On est fort de toute une nation, n'est-ce pas ? La seconde année, les férocités étaient plus grandes. Moi, j'avais un grand ami, Michel Achilles, qui était officier de la marine. La seconde année, il voulait partir. C'était un poète. Il écrivait des poésies. Il était un bon prosateur. Et quand il a vu, n'est-ce pas, que la guerre continuait, il voulait partir pour l'Égypte, pour aller rencontrer son bâtiment. On l'a surpris et on l'a fusillé. C'est formidable de mourir quand on a une âme multipliée comme Achilles. Il recevait tout le pays, lui, et puis il le recevait avec cette sensibilité merveilleuse.
Johann Chapoutot, on voit bien dans cet extrait, dans cette archive, à quel point la résistance grecque a été d'une détermination et aussi d'une efficacité. Elle s'incarne très bien dans la personnalité de ce colonel Stavros, vous rappelez, incarné par Anthony Quinn dans Les Canons de Navarone de Lee Thompson. On voit bien comment un commando est allé prendre des canons pour permettre des mouvements de troupes britanniques sur la mer.
Oui, ce qui est frappant dans ce témoignage, c'est qu'il livre un écho au fond très assourdi de l'horreur qu'a été l'occupation allemande en Grèce. Horreur, pourquoi ? Vous venez de le dire, parce que c'est une zone très épineuse et stratégique pour les Allemands. C'est une tête de pont possible, à cause de la puissance de la Royal Navy, c'est une tête de pont possible pour les Britanniques et pour les Alliés, pour mettre le pied sur le continent. Dès lors que l'occupation n'était pas prévue, c'était les Italiens qui devaient sécuriser la zone et pas les Allemands. Donc c'est un coût en temps, en hommes et en moyens qui est inacceptable à leurs yeux. Si en plus ils éprouvent des difficultés, ils se fâchent. Et ils se fâchent vraiment beaucoup. Je parlais d'un écho très assourdi parce que l'occupation allemande de la Grèce est jalonnée de massacres. En 1943, c'est le massacre de Lingiades. On va y revenir avec Joachim Gauck, le massacre de Calavrita également, qui sont des massacres perpétrés non pas par la SS mais par la Wehrmacht. La Wehrmacht qui fait face à des activités de résistance, de partisans selon le terme employé à l'époque, voire de terroristes selon la terminologie allemande. Ces activités-là font l'objet de répressions terribles, une politique de terre brûlée que l'on connaîtra en France un peu après, un an plus tard avec Oradour-sur-Glane.
D'ailleurs, plus l'historiographie progresse, plus s'estompe l'opposition traditionnelle, nous apprenions-nous à l'école, entre l'ISS supposée être épouvantable et la Wehrmacht gardant un certain nombre de valeurs traditionnelles et presque chevaleresques de l'armée allemande.
Ce qui est terrible, c'est que les soldats de la Wehrmacht et les officiers qui agissent ainsi ont l'impression d'agir en toute bonne foi et d'être dans leur bon droit, puisqu'ils sont l'objet de pratiques illégales de partisans. Lingiades, c'est 82 morts. Calavrita, c'est 674 morts. Tout ça, c'est en 1943. On parle beaucoup en 1944, en juin 1944, au même moment qu'Oradour, du massacre de Distomo, qui, comme Oradour, est perpétré par une division de la SS. Mais encore une fois, si la SS a été criminelle, la Wehrmacht l'a été aussi, à leurs yeux, pour de très bonnes raisons. De manière générale, ce qui s'est passé dans les Balkans, en Balkans et en Grèce, a été affreux.
On comprend dès lors que dans les périodes récentes, en particulier depuis quelques années, quelques mois, ce souvenir puisse affleurer de façon extrêmement présente dans les relations entre l'Allemagne et la Grèce, sujet de notre émission ce matin.
Les Grecs ont réclamé, plusieurs gouvernements l'ont fait, ont réclamé des réparations, non seulement pour les massacres commis, mais également pour les emprunts forcés, les pillages et les prédations que les Allemands ont perpétrés en Grèce. Il faut voir que le Troisième Reich est une économie de prédation, c'est une économie et de crédit et de spoliation-prédation, et que la Grèce n'a pas échappé, évidemment, à cette mise en coupe réglée, à ce saccage et à cette coupe claire que les nazis ont effectué à peu près dans toute l'Europe.
D'où une famine épouvantable.
D'où une famine atroce.
500 000 morts, nous dit-on.
Oui, et d'où ensuite un héritage terrible qui aboutit à une guerre civile affreuse après 1945. Le coût de l'occupation humain, culturel, économique de l'occupation allemande en Grèce est incomparable avec ce qui a pu se passer en France. Disons que ce qui s'est passé en France en mai-juin 1944... avec Oradour-sur-Glane, avec Dortan, avec Maillet, avec tous ces villages martyrs, il faut voir que ça a été ce qui a été l'exception en France, au fond, au moment des grandes difficultés issues du débarquement, ça a été la règle en Grèce, pendant toute l'occupation de 41 à 44.
Si on ne se rappelle pas cela, on ne peut pas comprendre probablement la vigueur des protestations contre l'Allemagne. Et on les a bien vues en particulier lors de la visite d'octobre 2012 qu'avait faite Angela Merkel en Grèce avec ses affiches, par exemple, où on pouvait lire « Dehors le Quatrième Reich ».
Oui, cette réactivation de cette mémoire n'est pas étonnante dans le contexte que vit la Grèce. Contexte social épouvantable, il faut voir que l'on ferme des hôpitaux, que une forme de famine est réapparue en Grèce, que l'on ne se soigne plus dans de grands secteurs de la population. Autrement dit, la situation sociale concrète, la vie quotidienne concrète des Grecs aujourd'hui rappelle nécessairement ces temps de privation, de famine et de malheur qu'ont été les années d'occupation de la Seconde Guerre mondiale.
Alors je voudrais que nous terminions, Johann Chapoutot, cette émission en évoquant la complexité des relations entre la Grèce et l'Allemagne à partir des années 50, en particulier sur la grande question des dettes, elle-même marquée par le souvenir de l'échec des dettes interalliées dans les années 20.
Effectivement, après 1945, on se targue à tout niveau, en termes de politique économique, en termes de politique sociale et de relations diplomatiques, d'avoir tiré les leçons des échecs de l'entre-deux-guerres. de la SDN et des réparations et de la compensation des dettes interalliées. Autrement dit, après 1945, on estime que, par ailleurs, l'Allemagne, qui est en ligne de front vis-à-vis du bloc communiste et qui ne doit surtout pas tomber du point de vue allié, du point de vue de l'OTAN, du point de vue de l'ONU, dans le giron de l'URSS et du bloc communiste...
On est tout près de la Yougoslavie, on est tout près de l'Albanie. À l'époque, la question s'est vraiment posée, on l'oublie aujourd'hui.
Absolument. Et pour ce qui est de l'Allemagne, donc, il y a eu le plan Marshall et il y a eu cet accord de Londres de 1953 qui est une annulation... des dettes de l'Allemagne.
Il faut s'attarder un instant sur cet accord parce qu'il est de grande importance pour la suite.
D'autant plus qu'à cet accord participent évidemment tous les créanciers de l'Allemagne de l'époque, notamment la Grèce. La Grèce qui, pour des raisons politiques et géostratégiques, évitait que l'Allemagne, par misère sociale, ne tombe dans le giron communiste. C'est la logique du plan Marshall. La Grèce fait cet effort d'annuler toute revendication et d'annuler ses créances à l'égard de l'Allemagne, ce qui est un geste magnifique. Et c'est ce qui a permis, les Allemands doivent s'en souvenir aujourd'hui tout de même, ce qui a permis la reconstruction de l'Allemagne et ce fameux miracle économique, enfin ce pseudo-miracle économique dont les Allemands sont si fiers.
Et Daniel Cohn-Bendit, par exemple, a beaucoup rappelé cette donnée et cette annulation des dettes dans la conjoncture actuelle. Il y a néanmoins une réserve pour le cas où l'Allemagne serait réunifiée par un traité.
Effectivement, ce que juridiquement les services du gouvernement allemand se sont penchés sur cette question après la revendication grecque, revendication qui d'ailleurs était soutenue par le président de la République fédérale allemande. Joachim Gauck, le 2 mai 2015, a dit que l'Allemagne avait des réparations à payer à la Grèce. Ce n'est pas rien, c'est le président de la République fédérale et par ailleurs, c'est une immense autorité morale que Joachim Gauck. Et donc l'argumentation des juristes du gouvernement, c'est de dire le traité 4+2 de 1990 crée un autre État qui n'est plus la RFA, qui n'est plus le Troisième Reich. Et donc l'Allemagne réunifiée, par ailleurs en besoin de financement et en besoin structurel, n'a pas à assumer la succession juridique, comme on dit en allemand, et donc les dettes d'États antérieurs.
C'est d'ailleurs une des raisons, semble-t-il, pour laquelle le chancelier Kohl aurait décidé qu'il n'y aurait pas un traité pour la réunification, ce qui aurait risqué de faire tomber l'Allemagne dans la situation évoquée par les accords de 1953.
Oui, absolument.
Alors, vous parlez du président Gauck et de son autorité morale. On ne la connaît pas toujours en France, où évidemment on se focalise sur la chancelière, mais certains présidents de la République fédérale d'Allemagne, puis aujourd'hui de l'Allemagne, ont beaucoup compté. Je pense à von Weizsäcker, par exemple. Eh bien, le président Gauck a fait une visite en Grèce en mars 2014 et il a prononcé des paroles qui ont évidemment beaucoup frappé, qui sont des paroles de regret, de repentance, d'excuses. Je vais vous faire entendre son propos en allemand. Ce sera bref. Et puis ensuite, vous nous traduirez, Johann Chaputo. Il s'exprime à Ligüiades, dans le nord-est du pays, où, vous le rappeliez tout à l'heure, les nazis avaient exterminé près de 100 personnes le 3 octobre 1943.
Und so möchte ich heute aussprechen, was Täter und viele politisch Verantwortliche der Nachkriegszeit nicht aussprechen konnten oder wollten. Das, was geschehen ist, war brutales Unrecht. Mit Scham und Schmerz bitte ich im Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten um Verzeihung.
Discours très, très émouvant où il dit ce que des criminels et puis des responsables de l'Allemagne de l'après-guerre n'ont pas pu ou n'ont pas voulu dire. C'est intéressant parce qu'il les met sur le même plan, hein, les criminels et les responsables de la RFA. Ce qu'ils n'ont pas pu ou voulu dire, je veux le dire aujourd'hui, ce qui s'est produit donc à Ligüiades en octobre 1943, comme vous le rappeliez, a constitué une négation du droit brutal. Et c'est avec honte et douleur que je veux aujourd'hui, au nom du peuple allemand, demander votre pardon. C'est une parole très émouvante et très, très lourde de sens de la part du président de la République fédérale, qui encore une fois rappelle ce que nous évoquions au début de cette émission, les paroles très fortes d'Angela Merkel il y a quelques jours. Si nous devons nous excuser parce que nous aidons, ce n'est pas mon pays.
C'est le même président Gauck qui est venu avec le président Hollande récemment également à Oradour.
Oui, et qui a participé à plusieurs cérémonies également au Königsbourg dans le cadre des célébrations du centenaire de la Grande Guerre.
Il n'empêche que ce geste, qui est une grande force, et on peut le dire d'un grand courage, n'a pas suffi à faire que les problèmes financiers entourant l'euro et la crise grecque et du gouvernement de Tsipras, ça n'a pas suffi à empêcher la violence des oppositions dans l'ordre économique ou dans l'ordre financier.
C'est pour ça que Joachim Gauck a dit cela, a demandé pardon en mars 2014, et un an après, en mai 2015, il est cohérent avec lui-même et il affirme que l'Allemagne doit payer des réparations considérables à la Grèce pour les crimes commis dans ce pays.
Vous pensez qu'il l'a fait en accord avec la chancelière ?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'était une des craintes d'Angela Merkel de voir un Joachim Gauck élu président de la République. Elle a tout fait pour l'éviter. Hein,
il y en a eu un qui l'avait battu et puis voilà, qui a été obligé de démissionner pour des raisons spécifiques.
C'était Wolf qui était tout à fait transparent et insipide et ça convenait très bien à la chancelière. Avec Gauck, c'est une toute autre chose. Et précisément, cette initiative de Joachim Gauck en mai 2015 fait partie de ces initiatives personnelles que la chancelière redoutait. Donc il n'y a pas eu d'accord. Bien au contraire, puisque le vice-chancelier Sigmar Gabriel, du SPD, a très fermement contredit les paroles du président de la République fédérale.
Oui, c'est un débat, une controverse qui n'a pas été relayée beaucoup par la presse française.
Non, et c'est dommage parce que, de manière générale, l'Allemagne est très peu connue en France. Nous avons peu de germanistes et nous savons peu de choses sur l'Allemagne. Nous parlons beaucoup, notamment en matière économique, et puis sur un certain... Maintenant, sur la quasi-totalité du spectre politique, du modèle allemand, sans du tout savoir de quoi il retourne, et on ferait bien de s'intéresser d'un peu plus près à ce pays avant de dire des grosses bêtises, d'une part, et d'autre part, on ne voit pas les débats internes, les débats sur l'austérité qui existent en Allemagne, et qui sont même virulents. Il n'y a pas un ordolibéralisme allemand ultra-dominant, il y a des positions divergentes, et dans la relation à la Grèce, on a tout de même, d'un côté, la chancelière et le ministre des Finances, et de l'autre côté, le président de la République fédérale, ce qui n'est pas rien, qui s'oppose. Donc ça, il faut le dire.
Certaines personnalités, Johann Chapoutot, incarnent cette sorte de continuité d'une histoire grecque en face de l'Allemagne. Je pense à ce personnage tout à fait digne d'intérêt qui s'appelle Manolis Glézos, qui est maintenant nonagénaire, et qui a été un très très grand combattant de la résistance contre l'occupant nazi, un militant communiste, et qui a incarné tout récemment cette protestation collective contre la dureté de la chancelière et de son gouvernement, telle qu'elle a été perçue en Allemagne au printemps dernier.
Oui, Manolis Glézos a 93 ans, puisqu'il est né en 1922, et c'est une figure de combattant à vie, au fond. Puisque militant communiste, il a été résistant contre les nazis, ensuite il s'est battu pendant la guerre civile grecque, il a passé 11 ans de sa vie en prison, puisqu'il a également résisté contre les gouvernements de droite très musclés des années 50 en Grèce, et ensuite il a résisté contre la dictature des colonels. Et aujourd'hui, alors il a d'abord été député Syriza au Parlement et au Parlement européen.
Soutien de Tsipras, par conséquent.
Soutien de Tsipras, avec lequel il a rompu assez tôt, puisqu'il a estimé dès février 2015 que Tsipras ne respecterait pas ses engagements auprès des électeurs. Ce qui fait que désormais, Manolis Glézos a fait sécession et candidate pour le compte de Unité Populaire, ce parti qui s'est créé par scission de Syriza pour les élections de demain.
93 ans, que ce ne soit un exemple à tous.
C'est une figure majeure puisque Manolis Glézos, c'est l'homme qui, en mai 1941, décroche le drapeau nazi du Parthénon. Après des activités de résistance diverses, il a réussi cet exploit qui lui a valu d'être condamné à mort, évidemment, par les occupants allemands. Et aujourd'hui, on voit toute la continuité non seulement de l'histoire grecque, mais également de cette dialectique germano-grecque qui nous a occupés dans cette émission.
C'est pourquoi j'ai souhaité que nous terminions sur cette très noble figure de Glézos. Merci beaucoup, Johann Chapoutot, pour votre présence ce matin. Le livre majeur sur lequel nous avons fondé notre conversation s'intitule « Le national-socialisme et l'Antiquité » aux presses universitaires de France en 2008. Samedi prochain, nous parlerons, vous aurez l'occasion de découvrir l'actualité de ce sujet qui n'est pas peut-être évidente au premier regard, mais vous la comprendrez, l'homme et le corbeau, une étrange proximité. Il paraît que le corbeau serait par son intelligence un des plus proches de notre espèce et c'est l'admirable Michel Pastoureau, grand spécialiste de ces choses et des couleurs, qui sera mon invité. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.